Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Club Éco sur Radio Judaica. Mon nom est Charles Markovitch et j'ai le plaisir de vous accueillir cette semaine à nouveau pour un nouvel épisode de cette émission. La semaine dernière, nous parlions de lutte contre le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, nous changeons totalement de sujet puisque j'ai le plaisir de vous accueillir Hugues Thibault. Vous Bonjour. Êtes le responsable des Public Affairs chez SD Works. Et aujourd'hui, on va parler de droit social international, donc de configuration d'entreprises qui vont placer et employer du personnel dans différents pays, principalement de l'Union européenne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise ou je rappelle à nos auditeurs et spectateurs qu'ils peuvent regarder cette émission quand ils veulent, de même que les autres, quand ils veulent, où ils veulent, partout sur les réseaux, sur Internet. Et je précise également que SD Works est probablement un des plus anciens secrétariats sociaux de Belgique, que d'après la presse, vous avez passé récemment 1 milliard de chiffre d'affaires dans, je crois, une vingtaine de pays. C'est donc une très belle réussite. Et deux informations que j'ai lues à propos du marché de l'emploi belge, même si on va parler international, c'est que, et qui résultent d'études qui ont été faites par SD Works, par votre entreprise, c'est que le salaire médian à Bruxelles est de 3100 euros, en Wallonie, il est 3100 euros, alors qu'à Bruxelles, il est de 3700 ou 3800 euros par mois. C'est donc un positionnement pour chacun de nos auditeurs. Venons-en au vif du sujet, Hugues Thibault. On a connu, bien entendu, deux années la crise Covid. De la perception de SD Works, est-ce que le Covid a changé les attitudes des entreprises en Belgique et à l'étranger envers notamment le fonctionnement des salariés et le télétravail?
Merci Charles. Effectivement, on a remarqué deux tendances. Bon, tout le monde a pratiqué le télétravail. Je travaille de chez moi. Pendant la crise, c'était une obligation. Après, les salariés ont continué à exiger, à demander de pouvoir travailler de chez eux. Mais on s'est remarqué également que certains salariés se sont dit « Puisque pendant 4 mois, je dois travailler de chez moi, pourquoi pas le faire depuis ma maison de campagne en France, en Espagne ?» Et cette tendance est prolongée maintenant. Je pars en vacances 2 semaines en Espagne et la troisième semaine, je reste en Espagne et je télétravaille depuis l'Espagne. Ça, c'est une première tendance. La deuxième tendance, et encore plus intéressante, je pense, c'est un peu le recrutement anywhere. Avant, vous trouviez la bonne personne, le bon talent. Vous lui demandez de s'expatrier en Belgique avec sa famille. On devait trouver une école pour les enfants. Il faut trouver un emploi pour le partenaire. C'était assez complexe. Maintenant, vous pouvez dire à la personne, pas de souci, moi, je veux travailler avec toi. Et je te permets de travailler depuis Lisbonne, où tu habites. Et tu viens pour une réunion un jour par mois à Bruxelles. C'est tout à fait possible, mais c'est un changement complet d'attitude.
C'est un changement complet d'attitude. Je suppose aussi que les entreprises y ont leurs avantages parce que ça leur coûte beaucoup moins cher d'avoir un travailleur, un collaborateur, un cadre qui travaille par exemple au Portugal ou en Espagne plutôt que de le faire déménager avec sa famille, comme vous l'avez dit. Il y a la scolarité, il y a le logement, etc. Donc les entreprises y ont leur avantage. Mais est-ce que le télétravail, qui est quelque chose d'assez récent de manière structurelle, persiste, continue ou certaines entreprises ont plutôt tendance à revenir dessus?
Mais je pense que la tendance maintenant est un retour dans les bureaux. Notamment, je ne sais pas si vous l'avez vu, une banque assez connue en Belgique interdit le télétravail le lundi et le vendredi. Donc les salariés peuvent choisir un jour, ou c'est le lundi ou le vendredi. Mais avoir le télétravail vendredi, puis samedi, dimanche à la maison et lundi, le télétravail, c'est fini. Donc effectivement, c'est une tendance qu'on voit en Belgique, c'est le retour au bureau.
Est-ce que vous pensez que cette banque a fait des études d'efficacité du personnel et ils ont vu que lorsque leur personnel faisait du télétravail et le lundi et le vendredi, la productivité baissait ou bien il y avait beaucoup plus de machines à laver qui tournaient?
Écoutez,
ou...
Je ne connais pas les raisons, mais j'imagine que s'ils sont arrivés à cette conclusion, c'est qu'ils avaient
raison. Il y a quelque chose comme ça.
Il y a quelque chose derrière.
Alors, vous avez parlé de changement de tendance et visiblement, il y a une législation européenne qui permet aux entreprises d'employer l'une ou l'autre personne dans son pays de résidence, ce qui favorise les choses. C'est beaucoup plus simple qu'auparavant. Quand on recrute à l'international, est-ce que c'est effectivement plus facile qu'auparavant et à quoi doit-on faire attention de manière prioritaire?
Je pense que c'est plus simple qu'auparavant, c'est rentrer dans les habitudes. Un employeur qui dit aujourd'hui, moi je veux que exclusivement mes salariés soient en Belgique, il va avoir difficile de recruter à l'international, effectivement. Alors, il faut faire quand même très attention. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est déterminer quel est le droit social applicable. Là, il y a en principe une liberté des parties. L'employeur et les salariés se mettent d'accord. Vous recrutez, vous, entreprise belge, un Belge qui va travailler exclusivement en Belgique, ben, le droit belge s'applique, c'est normal.
Ça va de soi.
Vous êtes une entreprise française, vous créez une filiale en Belgique, vous engagez un cadre français qui travaille pour vous en France, je vous demande de venir travailler en Belgique pour la filiale belge. Je pense qu'il y aura une grande tentation de l'employeur français et du salarié français de décider que le droit français va s'appliquer, ce qui est tout à fait normal et qu'on peut accepter. Il faut savoir néanmoins que s'il y a un conflit, un juge pourra écarter certaines dispositions du contrat de travail et appliquer le droit social belge. J'ai un exemple. Les entreprises françaises, lorsqu'elles décident d'appliquer le droit français, vont toujours prévoir une clause d'essai dans le contrat de travail. En Belgique, ça fait 10 ans que ça n'existe plus, une clause d'essai.
Ça n'existe plus, la clause d'essai.
C'est supprimé, donc, lorsqu'on a harmonisé les statuts ouvriers-employés. Donc, un juge écartera cette clause si jamais l'employeur met fin au contrat après un mois ou deux en invoquant la clause d'essai. Donc, liberté des parties, mais disposition impérative du pays dans lequel on travaille trouve à s'appliquer. Donc, il faut être toujours très attentif à ça.
Est-ce que si je suis français, employé français par une société française, mais je travaille en Belgique, on a prévu le droit français, je pourrais forcer le juge à faire appliquer le droit belge?
Sur certaines dispositions, le juge appliquera le droit qui est plus favorable aux travailleurs. Un exemple, souvent dans les contrats de droit français, on ne prévoit pas de 13e mois et de double pécule de vacances. Donc ça, c'est propre à la Belgique. Même si ce n'est pas prévu dans le contrat de travail, le salarié français qui travaille en Belgique pourra demander le 13e mois, le double pécule de vacances. Et il obtiendra parce que ce sont des dispositions impératives de droit belge qui s'appliquent. Donc, le conseil qu'on donne quand même, si vous travaillez en Belgique, même si l'employeur est français, même si le salarié est français, faites un contrat de droit belge, il devra s'appliquer de toute façon.
Oui, mais pour une entreprise française, apprendre toutes les subtilités du droit social belge, c'est quand même extrêmement compliqué. Vous allez me dire qu'à ce moment-là, ils doivent passer chez SD Works. C'est une petite passerelle, mais
je suis d'accord,
c'est compliqué
avec
quand
vous,
même.
Mais combiner deux droits, c'est aussi très compliqué. Donc je pense qu'il vaut mieux... Alors, l'employeur français va se sentir plus à l'aise avec son contrat de droit français habituel, mais c'est peut-être se faire accompagner par un juriste, par un avocat qui va dire non, la période d'essai, tu supprimes de ton contrat, ça ne s'appliquera pas. Attention, il y aura un 13e mois. Attention, il y aura un double pécule de vacances. Donc effectivement, faire une combinaison de droits. Partons alors du contrat de droit français avec lequel l'employeur a l'habitude de travailler et le salarié aussi. Et faisons quelques modifications pour éviter toute mauvaise surprise. C'est le conseil que je donne, effectivement.
On a parlé là du droit du travail, mais il y a une autre dimension qui est très importante, c'est la sécurité sociale, qui varie de pays à pays. On dit que le modèle occidental est un des... ou le meilleur du monde, que parmi ce modèle occidental, la France et la Belgique ont les meilleurs systèmes de santé. Est-ce qu'une entreprise d'un pays qui engage un collaborateur dans un autre pays, peut aussi choisir le régime social ou bien c'est d'office où la personne travaillera et aura la qualification de son emploi?
Non, effectivement, c'est judicieux comme question. En matière de sécurité sociale, il n'y a pas de cherry picking. Les parties ne peuvent pas se mettre d'accord disant « nous, on veut que ce soit le système espagnol de sécurité sociale qui soit applicable parce que les cotisations sociales sont moins élevées ». Ça, ce n'est pas possible. La règle, c'est qu'on paie les cotisations sociales dans le pays où on travaille. Vous travaillez 100% en Espagne, vous allez payer les cotisations sociales en Espagne. C'est-à-dire que l'employeur va devoir travailler avec un prestataire de paie, un secrétaire social espagnol, pour payer les cotisations sociales patronales et personnelles en Espagne. Vous travaillez 100% en Allemagne, vous payez les cotisations sociales en Allemagne. Ça, c'est simple. Où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'on a une activité simultanée, on a dit avec le travail international. Vous travaillez principalement en Espagne, mais un jour par semaine, vous venez travailler à Bruxelles. Que se passe-t-il? Là, il y a un règlement européen de coordination sociale parce qu'on ne va jamais dépendre de deux systèmes de sécurité sociale en même temps. Ce serait impossible. C'est l'un ou c'est l'autre. Et là, on va tenir compte de l'état de résidence du travailleur, Le travailleur espagnol est un résident espagnol. Il y travaille 4 jours par semaine. Il travaille donc plus que de 25% dans son pays de résidence. Donc, les sécurités sociales devraient être payées en Espagne, d'où l'employeur belge devra avoir un prestataire de paie en Espagne et payer les cotisations sociales en Espagne. Là, il y a vraiment un règlement européen qui détermine dans quel pays on doit payer les cotisations sociales.
Je reviens un moment à la fiscalité. Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas faire le lien avec la règle des 183 jours, l'endroit où le salarié est domicilié ou pas?
Et là, il faut vraiment distinguer. Ici, on parlait de sécurité sociale.
Tout à fait.
La règle des 183 jours, c'est une règle fiscale. Et effectivement, parfois, on a un peu tendance à vouloir appliquer les 183 jours en sécurité sociale. Alors, ce sont deux choses différentes. Au niveau de l'impôt des personnes physiques, là, on paie également les impôts dans le pays où on travaille. Vous travaillez exclusivement en Belgique, vous serez imposé sur vos revenus en Belgique. Vous travaillez 3 jours par semaine en Allemagne, 2 jours par semaine en Belgique. Là, on va probablement faire ce qu'on appelle un salary split. Ça veut dire que vos impôts seront payés à concurrence du temps travaillé en Allemagne, à concurrence du temps travaillé en Belgique. Donc là, il n'y a pas d'harmonisation au niveau fiscal
européen.
Pas encore. Malheureusement, pas encore. Et je pense que l'unanimité à 27, ça va être difficile sur cette matière. Je pense que ce n'est pas pour demain. Donc effectivement, là, les pays ont signé ce qu'ils appellent des conventions bilatérales en matière d'impôts pour déterminer dans quel pays on paie les impôts. D'abord, s'assurer qu'on les paie bien dans un pays.
D'accord.
Et éviter qu'on les paie dans deux pays. Donc, il faut être très, très attentif. Une situation, on peut avoir une solution au niveau sécurité sociale. On paie exclusivement la sécurité sociale en Espagne, 100%, mais on va payer l'impôt 75% en Espagne et 25% en Belgique. D'où le conseil que je donne, faites-vous accompagner et anticipez ce genre de questions. Il ne faut pas dire à partir de lundi, je vais engager un travailleur qui va principalement travailler en Espagne et un peu en Belgique. Quelles sont les conséquences au niveau du droit applicable, au niveau de la sécurité sociale et de l'impôt? Ça se prépare parce que si vous avez payé l'impôt ou les cotisations sociales dans un mauvais état, vous risquez de devoir les payer dans un deuxième état et après vous devez les récupérer. Ça ne se fait pas en une
semaine. C'est pas facile. Ce que vous expliquez pour les salariés vaut également pour les dirigeants d'entreprise ou pas nécessairement.
Donc pour les indépendants, effectivement, là, il est possible pour un indépendant également d'être détaché et travailler dans un État. Il devrait toujours payer ses cotisations sociales dans un État. Si de manière ponctuelle, il a un client en Espagne qui va effectuer une mission en Espagne et continuera à payer ses cotisations sociales en Belgique, s'il commence à s'installer, il a principalement des clients en Espagne, à un moment ou l'autre, probablement que l'INASTI se mettra en contact avec son équivalent espagnol pour savoir si ses cotisations sociales ne devront pas être payées en Espagne, effectivement.
Merci. Le temps file, Hugues Thibault. Avant de terminer ce premier entretien, mais je rassure nos spectateurs, nos auditeurs, on va se retrouver pour la suite de cet entretien passionnant la semaine prochaine. On connaît tous plus ou moins l'un ou l'autre salarié qui part 3 semaines, quelque part au Portugal, en Espagne, en Italie ou aux Pays-Bas en vacances. Et puis, comme il est super bien là-bas, peut-être qu'il a une maison, une seconde résidence ou pas, il décide d'y travailler une semaine de plus. Et donc revenir après 4 semaines travailler au bureau à Bruxelles. À quoi faut-il faire attention quand on est employeur ou quand on est salarié dans ces circonstances?
Et tout d'abord, le lieu de travail, c'est une disposition impérative du contrat de travail. Moi, employeur, je ne peux pas vous dire OK, vous travaillez à Bruxelles, à partir de demain, vous allez travailler à Paris. Je ne peux pas le faire seul. Il faut un accord des deux parties. Ça vaut dans l'autre sens également. On ne peut pas me dire, voilà, je pars en Espagne en vacances et la dernière semaine du mois de juillet, je vais travailler depuis l'Espagne. Donc, il faut l'accord préalable de l'employeur. Nous, on a certains clients qui ont été mis devant le fait accompli. Ils ont découvert que leurs travailleurs travaillent depuis l'Espagne pendant 7 jours. Peut-être que certains n'ont jamais marqué, mais un jour, tout se sait. Donc, il faut obligatoirement que le salarié demande l'accord avant de partir de son employeur pour pouvoir effectuer ses prestations depuis l'Espagne. Donc, il faut un addendum, il faut une convention qui stipule ça. L'employeur devra, dans ce cas-là, demander un formulaire A1. C'est un formulaire qui prouve que le travailleur est bien soumis au système belge de sécurité sociale avant son départ en Espagne. Donc, il y a quand même des formalités à respecter. Et en principe, l'employeur devra faire ce qu'on appelle un détachement. Donc, avertir les autorités de sécurité sociale espagnole que le travailleur va travailler pendant
une semaine. Même pour une semaine, c'est un détachement?
En principe, un jour, c'est un détachement.
Un jour, c'est un détachement et ça implique des formalités. Est-ce que l'employeur...
Mais il faut d'abord, mais il faut absolument qu'il y ait une convention par laquelle l'employeur, le salarié, ont marqué leur accord pour que le travail s'effectue. Imaginons qu'il y ait un accident du travail là-bas. Est-ce que la couverture vaut pour l'Espagne ou pas ?
Et s'il n'y a pas d'accord, je rebondis sur votre question, s'il n'y a pas d'accord avec le salarié
le
à un accident...
Le contrat n'est pas respecté, effectivement, c'est problématique, effectivement. Donc il faut absolument que l'employeur communique, soit modifie son règlement de travail, soit fasse une communication particulière, fasse signer un addendum en disant « si vous comptez travailler étranger, vous devez me communiquer votre choix préalablement et je dois marquer mon accord ». L'employeur doit toujours savoir où son salarié travaille.
Ça n'est pas du tout évident. Ce sera le mot de la fin de ce premier entretien sur le travail à l'international avec vous, Hugues Thibault. Vous êtes Public Affairs chez SD Works, le grand secrétariat social belge. Je vous remercie d'être venu au Club Echo et on se retrouve la semaine prochaine. Chers auditeurs, chers spectateurs, vous pouvez vous aussi nous retrouver quand vous le voulez. Merci beaucoup, belle fin de journée et à très bientôt.